France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Samedi 1er février, soyez les bienvenus sur France Musique, soyez les bienvenus à Nantes. Davy Travailleur est à la réalisation et puis à la technique. Une bien belle équipe, Fabien Gosset, Nicolas Estorge à Nantes, Stéphane Poitvin et Antoine Giraud à Paris. Nous sommes donc à Nantes ce matin dans le studio de France Musique. Venez nous voir, ce studio installé au cœur de la Cité des Congrès, pour une émission et une journée entièrement consacrée à la folle journée, mais aussi à notre maître à tous, j'ai nommé Beethoven, dont nous célébrons le 250e anniversaire de la naissance cette année. Alors nous aurons des invités ce matin en studio, bien sûr. Tout d'abord, Paul Smith, directeur de l'ensemble vocal Voices 8, ce sera dans un instant. Nous recevrons aussi le trio Karénine, le pianiste Nelson Gurner, mais aussi Rémi Durut, directeur musical de l'ensemble Links. À 8h20, notre reportage, Marie Jiquel nous parlera d'une association nantaise, l'association Trampolino. Dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin s'intéressera au conservatoire à rayonnement régional de Nantes, ce sera à 8h30. Et puis Roselyne Bachelot célébrera elle aussi cette folle journée sous le signe de l'ode à la joie. Bienvenue donc à Nantes et très bon réveil en compagnie de Beethoven.
Thank you.
Le premier mouvement de cette sonate, le printemps de Beethoven, pour bien démarrer la journée sur France Musique. Et puis ici à la folle journée à Nantes, Augustin Dumay, Maria Joao Pires, pour les interprètes. Et puis c'est une œuvre, un mouvement du moins, que vous pourrez entendre demain lors de ce concert qui sera retransmis en direct à 17h30 sur Arte Concert et puis sur France Musique aussi, concert de clôture de la folle journée avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Sian Zhang à la direction notamment, et puis une pléthore de solistes français et des solistes venus d'un petit peu partout qui nous offriront le meilleur de Beethoven. Avant cela, évidemment, plein d'autres concerts à suivre sur France Musique dans le cadre de ce festival.
France Musique en direct de la folle journée de Nantes.
Et nous démarrons à 7h42 minutes avec notre premier invité. Bonjour Paul Smith.
Bonjour, ça va?
Mais très bien, et vous?
C'est un peu tôt, mais c'est pas mal.
Ça pique un petit peu parce que c'est vrai que les journées pour les artistes de la folle journée sont très très remplies. Hein. Une dizaine de concerts parfois pour certains interprètes. Vous êtes directeur et chef musical de l'ensemble vocal britannique Voices 8. Alors en ce 1er février, je ne pouvais pas ne pas vous poser la question, évidemment, Paul Smith, à Brexit H+7. Quel est l'état d'esprit? Hier, je crois que vous avez chanté deux fois l'ode, oui, à la joie de Beethoven, oui, avec son message humaniste.
Absolument, oui.
Quel est votre état d'esprit? Oui,
je suis un peu triste hier et aujourd'hui c'est un nouveau monde, mais je pense peut-être que c'est avec musique que nous trouvons l'opportunité pour créer un monde, pas juste une petite paix.
Et de maintenir des liens et des connexions fortes, et vous, oui, le faites tout au long de l'année, Paul Smith, avec votre ensemble, vous êtes très présent sur le sol français. Je pense qu'il y a des projets à venir avec, oui, des orchestres français, l'orchestre d'Auvergne, l'orchestre d'Avignon notamment. Mais parlons plutôt de ce qui vous amène ici, de ces célébrités de Beethoven. Quand on pense à Beethoven, on peut penser à ses symphonies, à ses sonates, à ses quatuors, sa grande musique,
oui,
de chambre aussi. Sa musique vocale, on la connaît beaucoup moins.
Oui, c'est un projet très intéressant pour nous cette année à la folle journée, parce que pour un vocal ensemble pas gros, c'est difficile à trouver beaucoup de musique de Beethoven. Mais cette année, nous commençons avec le Choral Fantasy et nous chantons aussi un petit peu de la
Messe. Voilà, qui est sans doute, oui, le plus connu du programme.
Oui, mais aussi nous créons cette année quelques nouveaux arrangements de Beethoven. Donc, il trouvait quelques chansons traditionnelles, chansons de folk de l'île britannique, et Beethoven a arrangé 5 chansons et nous utilisons ça pour notre programme aussi cette année.
Voilà, une sorte de mélange entre oui, cette fantaisie chorale extrêmement célèbre et puis des airs traditionnels écossais et irlandais peu connus. J'aimerais qu'on parle plus précisément de cette production-là fort peu connue. Quel est peut-être le volume de cette production? Est-ce qu'il en a écrit 5 ou est-ce qu'il y en a beaucoup plus que ça?
Je pense que c'est pas beaucoup. C'est moi et mon frère qui cherche pour toute la musique. Barney créait Voices 8 avec moi en 2005. Donc, il crée tout notre programme.
Donc, il faut fouiller quand même.
Oui, il travaille bien pour cette année. C'est nécessaire.
Et une idée peut-être de la période à laquelle Beethoven a écrit ses airs traditionnels?
Oui, je pense que si vous écoutez toute la musique de Beethoven, il avait le style différent à toute la vie. Et j'espère qu'on lui trouve la musique, le folk song. C'est pas normal musique pour Beethoven, mais c'est pour les audiences ici, je pense que c'est intéressant.
Oui, pour les spectateurs de découvrir, oui, cet autre pan, effectivement, de la production du compositeur. J'imagine aussi que ça n'était pas destiné, est-ce qu'on le sait d'ailleurs, parce qu'on a peu d'informations sur ces œuvres-là, est-ce qu'elles étaient composées dans un contexte particulier, pour des chanteurs en particulier, ou j'imagine qu'il y avait une autre intention quand il écrit son opéra
quand
Fidelio.
Quand tu imagines la musique chorale pour Beethoven, je pense tout le temps c'est un grand chœur, c'est pas un petit ensemble. Donc, nous trouver avec cette chanson, c'est écrit pour un soliste et pour orchestre, mais pas pour ensemble vocal. Donc, nous trouver la chanson et créer un nouveau arrangement pour cette année, pour le festival.
Et ce sera à découvrir donc lors de 2 concerts, tout à l'heure à 17h30 ici à la folle journée, et demain à 12h45 avec James Sherlock qui vous accompagne, oui, au piano. Je vous propose d'écouter un extrait de la fantaisie chorale de Beethoven que vous interpréterez ici dans une version avec un grand orchestre. Ce sera différent
oui,
effectivement ici à la folle journée, mais voilà, pour se donner un petit avant-goût de cette fameuse musique vocale de Beethoven. Thank you. Un extrait de cette fantaisie de Beethoven que, eh bien, vous pourrez entendre dans une version pour ensemble a cappella ou ensemble plutôt accompagné avec piano,
oui,
de l'ensemble
Vocesette.
Et voilà, ce sera moins monumental, mais tout aussi impressionnant, bien sûr. Et puis l'occasion avec ce concert de l'ensemble, ces concerts de l'ensemble Vocesette, tout à l'heure à 17h30 et demain à 12h45 de découvrir, hein, on en parlait il y a quelques instants, des airs traditionnels écossais et irlandais fort peu connus de Beethoven, arrangé spécialement pour l'ensemble Vocesette. Vous êtes notre invité ce matin et notre premier invité, Paul Smith, pour parler de ce compositeur qui continue à inspirer. Vous êtes aussi l'auteur d'une méthode, Vocesette, qui, alors on peut suivre des petites vidéos sur Internet,
oui.
Enfin c'est un programme conséquent, hein, du moins, pour apprendre, eh bien, à chanter. Est-ce que Beethoven trouve sa place dans cet apprentissage, dans cette pédagogie-là?
Je pense, avec notre travail avec Vocesette et notre autre groupe, Apollo 5, nous travaillons maintenant avec 40 000 élèves par an.
Voilà, je vous l'avais dit, c'est conséquent.
Et peut-être c'est 10, 15 000 ici en France. Donc, nous avons beaucoup de projets et nous commençons avec le début de musique. C'est une aventure, peut-être, avec notre méthode. C'est très simple pour toutes les personnes à créer musique. Mais pour nous, quand nous sommes élèves, nous avons une bonne, éducation pour musique classique. Donc, nous pensons que c'est très important. Nous donner la même opportunité à notre élève aussi. Donc, quand nous travaillons avec un groupe, absolument, c'est un peu jolie. Il y a beaucoup de petits jeux musicaux, mais tout le temps nous finis avec une expérience de musique classique.
Et cette concrète,
année, absolument. Donc nous trouvons cette année Beethoven beaucoup de fois avec notre projet. Et c'est avec le Clair de Lune, par exemple, le Moonlight Sonata, nous avons créé une nouvelle version avec chœur pour cette chanson. Mais aussi cette semaine, nous travaillons avec le Choral Fantasy et le Kyrie aussi. Donc
parce qu'effectivement, il y a eu un projet pédagogique qui a accompagné déjà cette folle journée avec des étudiants de la région nantaise et puis je crois qu'ils étaient 250 et puis 110 amateurs justement pour interpréter cette ode à la joie.
C'est une expérience incroyable pour le jeune chanteur, c'est la première fois sur la scène et j'adore ce festival parce que il y a le moment éducatif est très important et pour tout le concert, je regarde beaucoup de jeunes enfants et pour nous, si c'est possible de créer musique avec les élèves aussi, c'est très important. Donc oui, cette semaine, c'est une expérience incroyable pour le jeune chanteur.
Et que pensent ces jeunes chanteurs ou ces jeunes amateurs de Beethoven?
Oui.
Quels sont les premiers mots qui leur viennent à l'esprit quand on évoque Beethoven?
Pour le petit enfant, c'est le Clair de Lune.
Et le Clair de Lune,
Oui. Et pour les adultes, c'est le Choral Fantasy. Donc c'est très vite. Et pour les amateurs chanteurs, c'est pas facile. Mais je travaille pour les derniers 4 mois avec tous les participants et nous trouvons un bon moment sur la scène.
Voilà, en tout cas, l'apprentissage est long, mais on vaut le détour, évidemment. Un petit mot quand même sur ces projets à venir, Paul Smith, parce que Beethoven va habiter cette année 2020 un petit peu partout, mais aussi les programmes de l'ensemble Voces 8, notamment un disque apparaître, un disque autour de la notion de silence. Donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, Beethoven a perdu l'audition autour au début de la trentaine.
Oui.
Donc c'est quand même extraordinaire ce compositeur qui arrive à créer les plus grandes œuvres de l'histoire de la musique classique en ne pouvant pas entendre le résultat du moins.
Oui, c'est bon pour nous. Nous avons Beethoven cette année. Mais aussi avec notre nouveau enregistrement, c'est Après Silence, c'est le titre.
Et c'est parfait. Après le silence.
Après le silence. Et nous créons 4 EP.
Single.
Cette année et nous finis avec un grand nouvel album à août pour notre 15e anniversaire et c'est beaucoup de musique classique et très connue, quelques musiques de Whitaker, de Britten et toute la musique formidable, c'est pas juste Beethoven, mais pour nous commençons avec le thème de silence et après silence, c'est une expression de Aldous Huxley, je sais pas si tu connais
celui-là. Absolument, écrivain.
Il dit après silence, c'est musique qui est le meilleur pour trouver l'émotion, c'est ça.
Bien, je trouve que c'est une très belle manière d'écouter un extrait en tout avant-première. C'est un cadeau que vous nous faites ce matin, A Boy and a Girl, extrait de ce disque à paraître en août prochain. Donc merci beaucoup Paul Smith d'être venu nous voir et d'avoir partagé cet avant-goût de ces concerts que vous donnerez avec votre ensemble Voces 8. Ce sera tout à l'heure à 17h30 et demain à 12h45 à la Folle Journée. Bonne journée Paul Smith.
Bonjour. Merci beaucoup.
A Boy and a Girl, un extrait de ce disque à paraître à l'occasion des 15 ans de l'ensemble Voices 8, ce sera l'été prochain. Paul Smith, qui était notre invité, nous offrait en avant-première cet extrait de ce nouveau disque avec cette thématique, très belle thématique, qui je suis sûre va inspirer beaucoup nos invités qui sont déjà installés et qu'on entendra dans un instant, les trois membres du trio Karenine. Après le silence, il y a beaucoup de choses à dire, il y aurait la musique, nous dit Aldous Huxley. En tout cas, c'est la citation du jour, on en reparlera, un petit briefing dans quelques minutes, si vous êtes prêts bien sûr. On se retrouve dans un instant, juste après quelques communiqués.
Carrefour de la création, le dimanche de 20h à 12h30, France Musique.
C'est une nouvelle équipe de passionnés dédiés à la création musicale. Ensemble, nous allons vous faire vivre les grands concerts de musique contemporaine de Radio France, l'actualité discographique, des cartes blanches, des portraits de compositeurs, des musiques improvisées ou électroniques. C'est la joie du temps présent.
Carrefour de la création, le dimanche de 20h à 12h30, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr.
Du 7 au 16 février, 30e édition du Festival Présence 2020, Festival de création musicale de Radio France, consacré au compositeur anglais George Benjamin. 18 concerts, 80 œuvres, 24 créations mondiales, 11 créations françaises, 60 compositeurs, plongés au cœur de la création. Informations et réservations, maisondelaradio.fr.
France Musique, en direct de la folle journée de Nantes.
Et venez nous rejoindre si vous êtes à Nantes à la folle journée pour assister à cette émission, puisque nous sommes au milieu de la Cité des Congrès avec ce superbe studio France Musique où vous pouvez venir vous asseoir. Nous avons déjà une auditrice qui est déjà là depuis le début de l'émission. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis merci à nos invités aussi qui se lèvent tôt pour venir bien nous parler au micro de France Musique. Paloma Cuider, Fanny Robiliard, Louis Rode. Le trio Karenine, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Alors, évidemment, on fête Beethoven depuis déjà quelques jours ici à la folle journée. 250e anniversaire de la naissance. Trio Karenine, 10 ans déjà. Oui. Que vous a appris votre aîné, Louis Rode?
L'exigence, peut-être. L'exigence et la densité. Puisque la musique de Beethoven est une musique qui est profondément une musique de du langage et de la contradiction, de la discussion. Et peut-être que c'est aussi ce qu'on cherche, chercher à atteindre une forme d'authenticité et de force dans le discours au travers de nos échanges dans la musique et dans le travail, à la fois en répétition et sur scène. Peut-être qu'on peut comprendre ça encore mieux en travaillant la musique de Beethoven.
C'est un compositeur qui fait partie de l'ADN de votre trio, Fanny Robiliard.
Oui et non. On a eu des périodes avec, des périodes sans. C'est vrai que j'en parlais hier, d'ailleurs à la cantine de la folle journée, avec un de nos collègues.
Il se dit beaucoup de choses.
Où il se dit beaucoup de choses. Et on se disait justement que c'était chouette ces thématiques parce que ça nous permettait justement de se plonger dans l'esthétique d'un compositeur, ce qui nous arrive pas forcément pendant l'année puisqu'on propose souvent des programmes avec plusieurs compositeurs à l'affiche. Et en fait, justement, le fait de se plonger dans Beethoven, dans ses articulations, dans l'emploi des silences chez Beethoven et tout ce qui est tellement important pour que le discours soit riche et digne de son compositeur, fait que pendant quelques semaines, on se met là-dedans et effectivement, c'est très enrichissant.
Paloma Cuider au piano, Fanny Robiliard au violon, Louis Rode au violoncelle. On va parler de ces trios avec piano de Beethoven que vous donnerez en concert, du moins les premiers, et le numéro 1, le numéro 5. Ce sera tout à l'heure à 14h45 et demain à 13h15 pour les auditeurs qui veulent venir encore vous écouter. Qu'est-ce qui fait, Paloma Cuider, la spécificité peut-être de ces trios de Beethoven?
Alors déjà, moi, je pense qu'on peut parler de Beethoven de manière générale. Je crois qu'on est tous d'accord pour ressentir parfois des états vraiment semblables au même moment. C'est-à-dire qu'il y a un moment, même à la première lecture, parce que ça nous arrive encore de commencer
certains. De découvrir.
Certains, voilà. Je crois qu'on est envahi par une forme d'émotion où on se dit, voilà, là, il y a une forme de bonté. Enfin, on va peut-être le décrire de manière différente, mais globalement, on va ressentir quelque chose qui va nous dépasser. Et je pense que on peut facilement tomber d'accord sur le fait qu'il y a une forme d'extrême bonté chez Beethoven. Alors parfois qui est peut-être qui est plus présente par exemple dans le premier trio que dans le trio des esprits. Le trio des esprits fait un peu la part belle à la fois au brio, au vivace, et puis en même temps à cette atmosphère extrêmement qui fait peur en fait, hein, du deuxième mouvement, on est presque dans le surnaturel en fait. Les cordes commencent, enfin c'est très saisissant. Donc il y a cette espèce de, dans le trio des esprits, il y a cette espèce d'énorme contraste entre une joie un peu débridée et puis en même temps des fantômes en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant pour nous. En fait, c'est la première fois qu'on joue ce premier trio et les esprits, donc vraiment un trio du son premier en fait, hein, et qui est quand même l'opus 1. Et donc il se rapproche encore, hein, on trouve dans des fins de phrases, des cadences, vraiment des manières d'écrire qui font penser à Mozart, Haydn. Enfin, on est quand même dans cette esthétique là. Et puis les esprits qui vraiment déjà sont dans, enfin il explose, il
casse sort du
les
cadre.
Codes. Enfin, on est vraiment dans la modernité alors qu'on est seulement à l'opus 70.
Alors moi aussi, je parlais de Beethoven à la cantine hier soir et j'avais cette phrase que j'aimais beaucoup du pianiste Tanguy de Villancourt qui me disait « Beethoven, c'est quelqu'un dont les intentions sont toujours très claires dès le départ. C'est un compositeur qui, nous, en tant qu'interprètes, ne nous laisse pas le choix. » Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez tous les trois, Fanny Rebilia?
Je pense qu'on l'a vu en répétition, hein, que c'était tendu. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un discours, on a l'impression que c'est un peu au millimètre près, c'est-à-dire que si on définit pas la rhétorique vraiment qu'on veut établir dans un trio de Beethoven, je pense qu'on peut vite passer à côté de quelque chose qui est à la fois très organique et à la fois, si c'est pas complètement organique, justement on passe à côté, et du coup il y a cette espèce de tension et de souplesse en même temps à acquérir dans le discours en fait qui est très précise, et je trouve que là on est vraiment dans le domaine d'une vie pour acquérir ça, parce que c'est comme chez Bach ou d'autres compositeurs, il y a vraiment quelque chose de solide à défendre.
Thank you. Quelques mesures de ce premier mouvement du trio Les Esprits, cinquième trio de Beethoven à découvrir en concert avec le trio Karénine. Ce sera tout à l'heure à 14h45 et demain à 13h15 dans le cadre de la folle journée de Nantes. Premier trio également au programme. Paloma Cuider, Fanny Robiliard et Louis Roth se sont levés ce matin pour venir partager quelques mots sur cet extraordinaire compositeur dont on loue aussi la faculté de dialogue, d'échange entre les interprètes et même d'égalité entre les interprètes.
Oui, Louis Roth. En tout cas, travailler les trios de Beethoven du point de vue de la perspective du violoncelliste, c'est voir comment il s'est servi de la basse pour la faire évoluer et pour la faire
émerger
et prendre toute sa place dans le discours. Donc, dans les premiers trios de l'opus 1, effectivement, on a un violoncelle qui double pas mal la main gauche du piano, donc dans une écriture qui ressemble un peu à celle de Haydn, qui d'ailleurs aimait beaucoup ces trios de l'opus 1. Et ensuite, dans la suite de sa production, et notamment dès son opus 11, le trio avec clarinette, on a des phrases de violoncelle qui commencent à être absolument sublimes. Et après, dans les trios de l'opus 70 et l'archiduc, l'opus 97, son dernier trio, là, on a vraiment une écriture très fusionnelle entre le violon et le violoncelle. Un peu la même écriture que celle que plus tard Brahms va employer, en fait. Donc, Beethoven nous place dans des rôles différents. Et puis après, il y a évidemment le triple, qui est un concerto pour violoncelle, comme chacun sait.
Ou en tout cas, concerto pour piano, violoncelle. Allez, quand même, citons les autres instruments. Cela dit, qu'est-ce que ça révèle de sa personnalité à Beethoven, cette égalité, ou du moins cette mise en valeur de chacun des participants?
Peut-être que
Fanny Robiliard.
Je m'aventure. Hein.
Mais allons-y.
Mais peut-être ça met en... Oui, l'égalité, ben, l'universalité aussi de son message. et puis le fait que... Beethoven, c'est peut-être quelqu'un qu'on voit comme un compositeur très solitaire, retranché.
Oui, il y a une image assez
alors qu'en fait,
il est aussi,
ouais,
terrible.
Aussi, il vit quand même grâce à un idéal d'amour justement universel, de nature, de rassemblement en fait, et de compréhension les uns des autres qu'il n'a peut-être jamais expérimenté, mais dont il rêve en fait.
Donc, c'est quelque chose qu'on lit vraiment dans ses lettres en fait, dès le début en fait. On a un très beau recueil des traductions de ses lettres. Préfacé par René Kering, où en fait on voit à quel point de sa jeunesse à sa mort, en fait, il ne parle que d'humanité, du fait de s'aimer les uns les autres, en fait. Donc une forme de bienveillance. Et on voit à quel point il prend, non pas des pincettes, mais enfin, il tient à ce que ses amis restent ses amis, malgré les brouilles, malgré les sauts d'humeur.
Ça reste un ami fidèle.
C'est un tendre, en fait. Et c'est vrai qu'on a... à cause peut-être des portraits qu'on peut avoir, on le voit comme quelqu'un d'hirsute et de peu stable, puisqu'il n'a jamais, en fait, on pense qu'il n'a jamais réussi à avoir une vie amoureuse.
En tout cas, il y a quelque chose qu'on travaille chez Beethoven qui est de l'ordre de l'évocation profonde de quelque chose de dense et de beau dans le son, la nature même du son. Et cette chose-là, quand on le travaille au violoncelle, en tout cas, c'est peut-être un des premiers, puisque dans la musique concertante, ou en tout cas où le violoncelle s'exprime avant, on a peut-être chez Haydn un petit peu, ou chez Boccherini, mais c'est vraiment chez Beethoven qu'on commence à découvrir ce son plein et profond et plein de générosité du violoncelle. Et c'est quelque chose qu'on peut tarder à comprendre dans l'apprentissage, du fait de cette personnalité un peu qui semble un peu dure, mais que c'est une musique profondément de la générosité comme ça. Et on le cherche dans les articulations, on cherche pour être plus précis, des sforzati ou des fortepiano qui ont quelque chose d'enveloppant, de doux. On cherche aussi l'horizontalité dans la musique de Beethoven. Et je pense que c'est plus on avance, plus on est dans cette générosité-là, plus on est dans le vrai, dans cette musique.
Et cette générosité, cet humanisme seront à découvrir dans le cadre de ces deux concerts que vous donnerez encore à la folle journée. Le trio Karénine à 14h45 aujourd'hui, demain à 13h15, premier et cinquième trio de Beethoven au programme. J'en profite aussi pour rappeler la sortie de votre tout nouveau disque qui vient de paraître sous le label Mirari en partenariat avec France Musique. Disque consacré à un tout d'autres compositeurs, évidemment, parce que le répertoire est large. Dvorak, Weinberg, Shostakovitch à découvrir. On l'a déjà découvert d'ailleurs sur France Musique, hein. J'en ai déjà même diffusé quelques extraits. Cela dit, on va vous laisser aller vous reposer avant de vous y mettre pour ce concert de tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, à tous les trois. Fanny Robiliard, Louis Rode et Paloma Cuider. Et puis le meilleur pour vos 10 ans, bien évidemment. Merci. À très bientôt.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Mathéo, sur le piano, porte un chapeau très très haut. Dans son château, plein de chaud, joue au loto.
8h15 et c'est l'heure de notre reportage avec Marie Jiquel, direction l'île de Nantes. C'est dans un ancien blockhouse de la Seconde Guerre mondiale que l'association Trampolino propulse les musiciens amateurs. Alors il faut imaginer sur ce bloc de béton une structure de 7 étages hyper équipée pour accueillir aussi bien les bébés que les personnes plus âgées. Depuis 30 ans, cette association au rayonnement régional veille à ce que la musique soit accessible et reste accessible à tous, sans oublier les personnes en grande précarité ou celles en situation de handicap. Marie, vous nous faites visiter, vous avez assisté à un cours pour enfants.
C'est pas du tout comme le conservatoire, parce qu'on travaille des chansons en groupe, piano, batterie, plusieurs thèmes de musique.
Et alors, comment est l'ambiance ici ?
Bah, elle est bien, à part que de temps en temps, les garçons font beaucoup de bruit.
Ils sont bruyants.
Très bruyants.
Alors, est-ce que tu peux me décrire le bâtiment ici ? Il est un peu particulier.
Oui, il est très particulier parce qu'il y a un bus qui est en haut, il y a un bar tout en bas, il y a plusieurs studios de travail, il y a un balcon pas mal, il y a une boîte de nuit, etc. quoi.
Tu as déjà été en boîte de nuit ?
Jamais de ma vie. Ah, la répétition commence, je crois qu'on doit y aller.
Distribution des rôles, ici on n'apprend pas à lire ou à écrire de la musique, on joue directement en groupe. Chaque enfant de Trampolino teste un instrument de musique. Les élèves appréhendent cet univers avec leur poésie. C'est eux qui ont réécrit les paroles d'un tube de Michael Jackson, « They don't care about us ». Comment vous avez inventé cette chanson ?
Bah avec plein d'idées, on s'est mis d'accord et après on a fait de notre mieux.
C'est pas forcément les guitaristes qui ont inventé. Les guitaristes, ils donnaient pas leur avis, c'est juste les chanteurs.
Ils étaient bien méchants.
Et alors, c'est quoi ton instrument préféré ?
La guitare électrique. Mon truc préféré, c'est le tennis. Ah, j'adore le tennis.
Mais en musique ?
Oh, bon, en musique, la guitare électrique.
La guitare électrique, c'est la star des instruments chez les enfants, non ?
Il semblerait, oui, il semblerait. Il y a le piano aussi, c'est pas mal pris, le piano. Les bassistes sont plus rares. Et la guitare électrique, c'est tout le monde veut jouer de la guitare électrique. Tout le monde veut être guitare héros.
Là, on va faire la petite télé. La
voilà,
télé.
J'ai mon petit accordeur.
La télé.
Alors, bouge pas, je vais t'accorder comme ça. Regarde.
C'est la météo. Ah.
Ouais.
Quand c'est vert, et ben c'est accordé. Et quand c'est orange, c'est pas accordé.
Quand c'est vert, vous dites.
Mais on joue à que quand c'est vert, c'est la météo, et quand c'est vert, il y a du soleil, et quand c'est orange, il fait pas beau.
Trompette qui sonne, les clochettes, ma trottinette, c'est chouette, je veux faire la fête au lieu de faire la tête.
Des enfants épanouis, vous l'avez entendu, Saskia, c'est ce que souhaite en tout cas Olivier Tura, le directeur de Trampolino.
On est extrêmement chanceux d'avoir un lieu comme celui-ci qui fait 2300 m², comme je disais, qui est entièrement dédié à la pratique des musiciens. C'est un lieu qui appartient à la ville et il y a 16 studios à l'intérieur, un petit lieu de diffusion de 200 places qui nous permet d'organiser des concerts, des soirées, une terrasse qui est assez magique. Je la conseille au coucher du soleil l'été.
Les initiatives sont nombreuses. Exemple, le projet MAD, Musique à découvrir, qui soutient les groupes amateurs lycéens. Trampolino collabore aussi avec l'école de design de Nantes pour créer des instruments adaptés aux personnes en situation de handicap, comme des médiators spéciaux. Dernière nouveauté, développée pour un public autiste, un boîtier connecté. Raphaël Pilorge, responsable de l'action culturelle, nous explique le concept.
Il s'agit de la Brut Box qui a été développée par une asso qui s'appelle Brut Pop. C'est un système de petits boîtiers équipés de capteurs et qui permet de faire de la musique, de jouer en live, même de l'enregistrer. Aujourd'hui, nous, on a choisi de s'en équiper à Trampo pour peut-être le développer avec les publics avec lesquels on travaille. Donc ça peut être des enfants pas forcément en situation de handicap, mais également avec des personnes qui ont une mobilité réduite et qui ne peuvent pas pratiquer des instruments classiques.
Ultime pépite de cet endroit vivant, un bus échoué sur la terrasse, tout confort et capitonné à l'intérieur pour des concerts. Une surprise qui engendre des légendes, Raphaël Pilorge.
Il y a une légende qui dit que le bus qui est accroché sur la terrasse, il a été installé grâce à deux hommes qui, à main nue, ont tiré ce bus pour le hisser depuis un échafaudage sur la terrasse de Trampolino.
Le mystère du bus de Trampolino, un lieu à découvrir vite à travers la santé. D'événements programmés chaque année.
Merci beaucoup Marie Jiquel et puis chers auditeurs, si vous souhaitez vous y rendre, sachez que l'association Trampolino est située dans le bâtiment B de la fabrique sur l'île de Nantes. Il est 8h20. Et pour votre chronique battement de cœur, Marc-Olivier Dupin, vous nous rejoignez à Nantes aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour. Oui, pour parler la foisonnante activité chorale du Conservatoire de Nantes. Alors, on fait beaucoup de chants chorales dans ce conservatoire, ce qui est une très bonne chose. Et il y a beaucoup d'ensembles qui sont dirigés par Valérie Fayet et Pierre-Louis Bonamy. Et on peut faire de la chorale de 7 à 77 ans, comme le Tintin. Et ce sont des centaines d'enfants qui sont concernés dès le plus jeune âge, puisqu'il y a un cursus jeune voix dès l'âge de 7 ans jusqu'à des chœurs de chambre, des pour les apprentis chanteurs, des chœurs d'adultes, des chœurs d'ados, enfin bref, toute la panoplie chorale qui permet aux enfants de grandir en chantant. On va entendre un petit extrait du chœur Gruppetto, c'est très mignon ce titre, 7 à 9 ans, le nom des arbres d'Isabelle Aboulker.
Marc-Olivier, quelle est la place des chœurs du Conservatoire de Nantes dans le paysage nantais, justement ?
Alors, il y a de nombreuses collaborations entre le Conservatoire, les chœurs du Conservatoire et d'autres établissements. Tout ça est très encouragé par l'équipe du Conservatoire dirigée par Viviane Seri. Il y a des collaborations avec la Scola de la Cathédrale, des collèges, des lycées, bien sûr avec l'Orchestre National des Pays de Loire, avec lequel ils ont un très beau projet en 2021 de monter A Child of Our Time de Tippett. Et puis, chose très importante, il y a une classe de direction de chœur dans ce conservatoire. Et ça, c'est formidable parce que si on veut développer la pratique chorale dans ce pays...
On a besoin de chefs de chœur.
On a besoin de bons chefs de chœur. Et Valérie Fayet est une merveilleuse chef de chœur elle-même. On va entendre un extrait du chœur de chambre du conservatoire dirigé par Valérie Fayet dans la folle journée de l'année dernière.
Chœur de chambre du Conservatoire de Nantes l'année dernière, la folle journée, chœur qui participe également à cette édition 2020 du festival. En deux mots, Marc-Olivier, dans un conservatoire, quelles sont les différences entre formation musicale et la pratique du chant choral ?
Alors, on peut dire que ces deux activités musicales sont complémentaires, c'est-à-dire que dans l'apprentissage de la formation musicale du solfège, on travaille beaucoup sur la dissociation, sur le rythme, sur l'intonation, sur des aspects plus culturels aussi des œuvres. Dans le chant choral, au contraire, on met tout ensemble.
On assemble tout.
Voilà, on met tout ensemble pour arriver à réaliser des œuvres, et si possible des chefs-d'œuvre, qui portent les enfants et les ados. Donc, ces activités peuvent être très complémentaires. Mais je ne manque jamais l'occasion de rappeler que dans beaucoup de pays d'Europe, on apprend la musique sans le solfège et sans la formation musicale.
On commence du moins.
On commence et on garde ces pratiques pour effectivement les futurs professionnels. Mais on a une éducation musicale vraiment très axée sur la pratique du chant choral, ce qui est évidemment très stimulant pour les enfants.
Axé sur le plaisir.
Axé sur le plaisir, sur le contact au chef-d'œuvre, qui est évidemment la meilleure façon d'avoir du désir pour la musique. On va entendre les chœurs d'adolescents, un chœur d'adolescents de ce conservatoire, dans La dernière rose d'été, musique de Marbot sur des paroles de notre maître à tous, Francis Blanche.
Merci beaucoup Marc-Olivier de nous avoir fait entendre ces chanteurs du Conservatoire de Nantes. On vous retrouve la semaine prochaine en studio à Paris.
Avec plaisir.
Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine.
Merci à vous.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
8h26 et nous sommes toujours en direct depuis Nantes, depuis la folle journée pour cette émission, pour cette journée que France Musique consacre au festival avec, eh bien, de la musique, bien sûr, vous l'entendiez, des petites visites au conservatoire, ailleurs, à l'association Trampolino et puis des invités aussi autour de la table, évidemment, ce matin. Et j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Duru de l'ensemble Dynx.
Bonjour.
Bonjour. Bienvenue dans Musique Matin. Rémi, vous êtes directeur de l'ensemble Dynx. Pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous nous présenter cet ensemble?
Eh bien, c'est un ensemble contemporain, voilà, qu'on a créé avec mon frère il y a 12 ans. Donc, on co-dirige cet ensemble. Et voilà, c'est un ensemble qui fait beaucoup de création, beaucoup de musique d'aujourd'hui. On essaye de mêler les disciplines, les arts. Voilà, un ensemble actuel.
Un ensemble donc de musiciens engagés dans la création, l'improvisation. Ou encore la composition. Évidemment, on vous convie aussi, en plus de votre visite ici à la folle journée, autour de cette table, pour parler d'un compositeur qu'on évoque depuis ce matin, un certain Ludwig van Beethoven.
Qui ça?
On en parle un petit peu beaucoup depuis quand même quelques jours. Évidemment, vous serez en concert ce soir à 20h au Grand Atelier, au lieu unique, pour parler en musique de ce compositeur. C'est la première fois que le collectif Dynx se penche sur Beethoven?
Quand même.
Est-ce qu'il y a un avant, un après?
Toujours. Après chaque concert, on grandit toujours un peu. Et ce qui est assez chouette là, c'est que le lieu unique donc nous a demandé un programme autour donc de Beethoven et un programme original, parce qu'il voulait des pièces de compositeurs qui se sont inspirés ou qui ont écrit des choses autour de Beethoven. Donc pas facile comme contrainte de départ, parce qu'on a fait des recherches.
Cela dit, Beethoven a inspiré énormément de créateurs, depuis Samant jusqu'à aujourd'hui encore.
C'est vrai, mais la base, c'était la pièce de Stockhausen qui s'appelle Kurzweilen. Et il a fait une version dans les années 70, donc pour radio et électronique. Et il a fait une version en incluant des extraits de Beethoven. Et on voulait, voilà, des pièces de jeunes compositeurs aussi qui se sont inspirés de sa musique. Et on a trouvé des petites perles très sympas.
Qu'on va découvrir avec vous ce matin, évidemment. Tiens, je vous propose d'écouter quelques mesures, justement, de ce Karlheinz Stockhausen Kurzweilen mit Beethoven dont vous nous parliez.
Thank you.
chaque mesure de cette œuvre de Karlheinz Stockhausen, inspirée par Beethoven. Rémi Durieux, qu'est-ce que le compositeur essaye de nous dire sur Beethoven, ici, avec ce qu'on entend?
Sur Beethoven, je ne sais pas s'il y a quelque chose vraiment à dire sur Beethoven avec, dans cette pièce-là, mais il s'en sert comme matière sonore, comme matière à utiliser avec les ondes courtes, qui est vraiment très concrète. Donc il y a cette volonté juste de puiser des ressources de son, de timbre, et de les mélanger avec des choses vraiment contemporaines.
Et après, vous êtes penché, Rémi Durieux, pour construire le programme de ce concert dont on parle ce matin, sur ces compositeurs qui sont nombreux, qui se sont inspirés de l'œuvre de Beethoven. Qu'est-ce qui explique que Beethoven continue à inspirer aujourd'hui, justement? On a une idée de ça.
Qu'est-ce qui explique? C'est comme tous les grands compositeurs, les grands chefs-d'œuvre, c'est intemporel et malgré la manière.
Pourquoi est-ce intemporel?
Je sais pas, moi, comment on explique le génie? Je sais pas si on a les clés de ça. C'est là et c'est magnifique. Donc faut le prendre tel quel et s'en amuser et jouer avec.
Sonate au clair de lune de Beethoven, revisité ici par Isaac Schenkler, compositeur qui sera, et œuvre qui sera à l'affiche d'ailleurs du programme de ce concert que l'ensemble Lynx donnera ce soir à la Folle Journée de Nantes à 20h au Grand Atelier au lieu unique. œuvre de compositeur contemporain, inspirée par l'œuvre de ce grand monsieur. Je pense aussi à Stockhausen, Wendy Carlos, Sébastien Roux. On va en parler. Est-ce qu'il y a quelque chose, y a-t-il quelque chose qui les relie, ces compositeurs contemporains, une fois qu'on s'est intéressé à ce qu'ils ont fait refabriquer à partir de l'œuvre de Beethoven, Rémy Durieux?
Ce qui les relie dans ce programme, c'est peut-être une forme d'audace de prendre le matériau qui est très connu de Beethoven, comme la sonate, et de s'en amuser avec, de la déformer, prendre ce risque de paraître un peu incongru et voilà, décalé. Et c'est ce décalage qui est vraiment chouette. Là, on l'entend bien dans la sonate. Non, la pianiste ne s'est pas droguée, mais volontairement, il y a la main droite et la main gauche qui sont décalées d'une mesure. Donc, c'est très simple comme idée, mais ça fait un effet assez incroyable. On a vraiment l'impression d'être bancal tout du long, mais avec des harmonies à un moment donné jazz, parfois très très serrées aussi dans les accords, et ça rend un décalage très, très
et
intéressant.
Et c'est intéressant aussi parce que, bon, on l'a déjà expliqué un petit peu plus tôt, mais c'est vrai que Beethoven a souffert de surdité à partir de l'âge de 30 ans. On pourrait même aussi un petit peu entendre quelque chose de vaporeux, peut-être quelque chose qui se rapprocherait de ce que Beethoven entendait.
Mais non, je pense qu'il entendait très bien, en fait. Mais intérieurement, c'est tout. Donc il entendait bien mieux que nous tous qui avons encore... Les oreilles pleines, voilà. Je pense qu'on en discutait encore hier soir, comment il a pu écrire ce final de la 9e, voilà. Et non, il avait une...
Et vous avez trouvé la réponse?
Non, mais voilà, c'est intérieurement, c'est une écoute, énorme, très très forte, quoi.
Vous me disiez tout à l'heure que Beethoven vous avait fait grandir, ou du moins ce travail, en tout cas, autour du programme de concert, vous avez fait grandir sur quels aspects, Rémy?
Grandir, nous faire avancer, c'est de découvrir des nouveaux compositeurs, tous ces jeunes aussi, des pièces, et puis ça nous fait travailler et avancer aussi sur une scène. Donc en tant que musicien, on avance comme ça.
Et vous avez choisi aussi de vous intéresser, et vous en parliez à l'instant, à cette fameuse ode à la joie dont on n'arrête pas de parler depuis ce matin, évidemment. Est-ce que c'est peut-être aussi son humanisme qui fait sens, qui fait qu'il continue à parler aujourd'hui?
Certainement, oui, certainement. Ouais.
Eh bien, je vous propose d'écouter cette ode à la joie revisitée à la manière de Wendy Carlos par vous, Rémy Durieux, votre ensemble, l'ensemble Links en concert ce soir à 20h au Grand Atelier, au lieu unique ici à la Folle Journée de Nantes. Merci beaucoup.
Merci
d'être venu partager ces quelques minutes avec nous ce matin, et puis à tout à l'heure,
ouais,
ce soir.
Ouais, avec plaisir. Thank you.
L'ode à la joie de Beethoven, revisité ici par l'ensemble Lynx, à découvrir en concert ce soir à 20h au Grand Atelier Olunique avec boule à facettes, éclairage bien adapté évidemment à ce concert particulier pour découvrir, redécouvrir Beethoven par le biais d'œuvres de compositeurs d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc pris les 8h40.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Et c'est un grand plaisir d'accueillir Nelson Gurner aussi ce matin à la fin de journée. Bonjour Nelson.
Bonjour Saskia.
Vous allez bien?
Je vais bien, aussi bien que possible à cette heure.
C'est difficile le matin toujours pour un musicien. Vous n'êtes
parfois
pas très
oui,
original.
Parfois, non. Non, je suis pas très original.
C'est ce que tout me disent tous les musiciens, chaque matin, lors de chaque matinale. C'est vrai qu'on n'est pas toujours dans les mêmes horaires. Vu vos concerts du soir, vous êtes évidemment pianiste Nelson Gurner. Vous êtes un fidèle de la folle journée de Nantes. On aura le plaisir de vous entendre tout à l'heure en concerto. Ce sera à 17h45 avec le Concerto Budapest, Andras Keller à la direction, avec le 5e concerto de Beethoven, concerto L'Empereur, dont on va parler. Moi, j'aimerais qu'on parle, pour commencer, des débuts de Beethoven quand il est arrivé à Vienne. C'est tout d'abord en tant que pianiste virtuose qu'il s'est fait connaître.
Oui, et c'est ça qui est... Bon, c'est pas très étonnant, disons, dans les cadres de l'époque, parce que un compositeur, il était censé aussi être interprète. Hein. C'est beaucoup plus tard que les carrières se sont divisées. Et nous, on a perdu, par ailleurs, puisque... Bon, on est soit interprète, soit on est compositeur, et rarement les deux de nos jours. Mais alors c'est qu'il y a cette poigne hein, chez Beethoven, et on sent très bien que ça a été écrit par un pianiste, bien que on trouve que certains de ses procédés sont pas très pianistiques. Parce que
pourquoi?
Pas très commode, parce que on trouve que, bon, par exemple, Chopin ou parfois Schumann ou Liszt, sans doute, ils écrivent d'une manière plus aisée, en quelque sorte, même s'ils sont
c'est
plus virtuoses.
C'est vrai qu'on dit parfois que Beethoven ne faisait pas du tout attention aux aspects techniques.
C'est ça, oui.
Qu'il
oui.
se laissait vraiment porter,
il s'est laissé porter par
son inspiration.
Oui. Et donc, ça crée des difficultés d'un genre très particulier pour les pianistes.
Il faut le travailler donc de manière particulière.
Pour les surmonter, oui, je dirais, oui. Parce que, par exemple, hier, j'ai joué les variations Eroica, et je me disais, mais c'est fou ce qu'elle... Comme chaque fois, je m'étonne de la difficulté de l'œuvre, mais de la difficulté purement technique, hein, pas seulement au niveau de l'esprit et tout ce qu'on peut trouver là-dedans, mais pianistiquement.
De l'exécution.
Puisque ce sont des séquences très courtes, et avec des difficultés qu'on trouve rarement ailleurs. Des choses qui sont pas bien faites pour la main du pianiste, mais qui sonnent de manière extraordinaire quand elles sont bien réalisées. Oui.
Car effectivement, Beethoven était un grand créateur, quelqu'un qui cherchait sans cesse, qui testait
oui.
sans cesse.
Oui, oui, oui. Et je pense que les difficultés proprement techniques ou même les limites de l'instrument lui importaient peu, finalement assez peu.
Thank you.
le scherzo de cette 29e sonate pour piano de Beethoven interprétée par Nelson Gurner qui est avec nous ce matin. Ici en direct depuis la folle journée de Nantes, Nelson Gurner, les œuvres pour piano de Beethoven, un monde inépuisable tant pour l'interprète que pour l'auditeur aussi.
Ah oui, pour les deux. Pour nous, on n'en finit jamais, heureusement. Et bon, j'ai repensé à cette sonate maintenant en l'écoutant. J'ai commencé quand j'étais très jeune, hein, parce que mon professeur à l'époque, il avait l'idée qu'il fallait commencer très tôt avec ces sonates. Non pas à les jouer en public, mais à les travailler. Parce que ça prend tellement d'années que si on commence trop tard, on n'a plus assez de temps.
Voilà, autant s'y prendre dès qu'on peut. On se posait la question tout à l'heure, ou du moins on essayait de répondre à cette question avec Rémi Duru de l'ensemble Lynx. Qu'est-ce qui explique que cette musique continue à inspirer aujourd'hui, que ce soit les esprits créateurs d'aujourd'hui ou les interprètes ou les auditeurs justement?
Alors, je pense que d'une part les défis qu'elle lance, parce que moi j'ai toujours trouvé que Beethoven c'est un peu comme Bach, dans le sens qu'il fait une formidable synthèse de la musique qu'il a précédée, et en même temps, il incarne tout ça, toutes ses influences, il les fait siennes d'une manière extraordinaire.
Il va plus loin.
Il va plus loin et il lance donc son regard vers l'avenir d'une manière fracassante. Et donc, je pense que c'est ça qui rend sa musique extraordinairement vivante et qui fait que les compositeurs d'aujourd'hui s'en inspirent toujours. Ils reviennent comme on revient vers Bach. C'est pour ça que je pense... malgré leurs différences, qu'ils ont cette formidable synthèse. Oui.
Et qu'est-ce qu'on apprend de Beethoven uniquement quand on le joue?
En tant qu'interprète, il nous fait grandir. Il nous fait aussi, il y a une notion de dépassement qui intervient, parce que souvent il vous oblige à aller vers les extrêmes. Hein. Combien souvent on a chez lui des contrastes qui sont tellement inattendus, surprenants, violents, je dirais parfois, ou en tout cas, si pas violents, ils ont une certaine agressivité, ou un certain humour qui est parfois comme ça, très très surprenant. Et c'est des fois pas dans nos cordes tout ça, en tant qu'interprète, qu'on veut bien construire une œuvre et la présenter de la manière logique. Il n'y a pas cette logique-là chez Beethoven parfois. Bien que la structure, elle est toujours formidable, mais elle doit être aussi formidablement habitée. Et elle est faite de ces ruptures, de ces challenges qui sont énormes. Donc, il y a aussi cette notion de dépassement.
Les musiciens, les interprètes que je reçois me disent souvent qu'ils se laissent dépassés par la musique en quelque sorte, qu'ils sont interprètes, mais donc interprètes de ce que ça veut dire, porteurs de cette musique. Ici, est-ce qu'on n'est pas avec Beethoven, avec ses intentions qui sont tellement claires, tellement insistantes, est-ce qu'on ne porte pas plutôt le compositeur avant l'œuvre?
Je crois que c'est les deux à la fois, et le compositeur et l'œuvre, parce que ce qu'il fait, c'est tellement innovateur et passionnant de tout point de vue, aussi bien dans la pratique instrumentale que dans la construction et dans l'essence qui porte tout ça. Alors, je crois qu'on est déjà tellement heureux de pouvoir avoir dans ses doigts, dans son esprit, toute cette musique immense.
Et cette musique immense, ouais. Vous la jouerez tout à l'heure à 17h45, ici à la Folle Journée, le 5e concerto pour piano de Beethoven, le dernier, l'Empereur. Un petit mot sur cette œuvre en particulier, Nelson Gurner.
Alors moi je dirais sur cette œuvre que elle a ses côtés vraiment imposants qu'on sait, le titre qu'on lui a donné bien sûr l'explique bien, mais c'est une œuvre aussi pleine de subtilité par ailleurs, hein. Donc, des fois, je me dis qu'on a privilégié un côté et c'est une fusion de tellement de choses différentes. Parce qu'il y a aussi de l'intimité dans le deuxième mouvement, il y a un grand lyrisme par moment, mais il y a aussi le panache. C'est ça, c'est cette complexité-là de tant d'aspects qui font un cosmos qui appartient qu'à ce concerto, qui est la difficulté pour l'interprète. C'est là où la difficulté réside.
Eh bien, courez, écoutez, Nelson Gurner nous interprétait ça sur scène ici à la Folle Journée. Ce sera donc tout à l'heure à 17h45 avec le concerto Budapest. András Keller à la direction. Merci beaucoup, Nelson Gurner, d'être venu nous voir ce matin. Et puis, bonne préparation, mais partage et préparation à ce concert donc de tout à l'heure. Très belle journée et à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Les dernières mesures de ce cinquième et fabuleux concerto de Beethoven, concerto L'Empereur, interprété par un autre artiste ici de la Folle Journée, Lars Vogt, au piano et puis à la direction du Royal Northern Symphonia. Il est 8h54 minutes.
Le maestro est sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Et vous célébrez cette folle journée vous aussi, mais sous le signe de l'ode à la joie, tout un symbole.
En cette année où nous célébrons le 250e anniversaire de Beethoven, la folle journée de Nantes s'est évidemment embeethovenisée et l'on s'en réjouit. Comme à son habitude, elle n'hésite pas à nous faire découvrir des œuvres rares de ce pur génie qu'est notre compositeur. Mais Beethoven, ce sont aussi d'innombrables tubes, et même les plus allergiques à la musique classique les connaissent, les fredonnent, la publicité s'en empare et les politiques les utilisent. C'est l'ouverture de la cinquième et son fameux pom-pom-pom-pom qui ouvrait les émissions de la BBC destinées à la clandestinité pendant la guerre de 39-45, reprenant le signal en morse du V de la victoire. Emmanuel Macron et François Mitterrand ont célébré leur accession au pouvoir au son de la 9e et de son fameuse ode à la joie, indissolublement liée maintenant à l'Union européenne dont il est l'hymne symbolique. La composition de la 9e symphonie occupa une place très importante dans les dernières années de la vie du compositeur, de la fin de 1822 à mai 1824, date où elle fut créée au Karnthertor de Vienne. L'émotion était grande dans le public, puisque Beethoven était assis près de la scène et battait le tempo. Le chef d'orchestre Michael Umlauf avait enjoint à ses musiciens de n'en tenir aucun compte, puisque Beethoven, complètement sourd, prenait plusieurs mesures de retard sur l'exécution. Il continuait d'ailleurs à battre la mesure alors que les applaudissements crépitaient et la contralto Caroline Unger le fit se retourner pour qu'il puisse voir le public enthousiaste qu'il n'avait pas vu depuis 12 ans achiller des mouchoirs ou lancer des chapeaux en l'air pour qu'il puisse savourer l'ovation. Ludwig van Beethoven arrivait ainsi quasiment au terme d'un cheminement musical et intellectuel pendant lequel l'œuvre de Schiller et son ode, An die Freude, appel vibrant à la fraternité, l'avait séduit dès 1792. À de nombreuses reprises, il mit en musique des vers de ce poème et les amoureux comme moi de son unique opéra Fidelio savent que Wer ein Holdes Weiß errungen, celui qui a conquis une tendre compagne, est tiré de cette ode de Schiller. Le succès de la neuvième ne s'est jamais démenti et sa proclamation « Alle Menschen werden Brüder » apparaissait même comme le contrepoint de l'hypernationalisme allemand de Richard Wagner et comme un acte de contrition à la réouverture du festival de Bayreuth le 29 juillet 1951, Wilhelm Furtwängler dirigea la neuvième à la tête de l'orchestre du festival. Tout naturellement, les militants pro-européens songeaient depuis longtemps à en faire l'hymne de l'Union en construction. Mais tout cela suscita toutes sortes de polémiques et de contre-propositions. Il fallut l'anniversaire du bicentenaire de Beethoven en 1970 pour lever les dernières réticences, d'abord du Conseil de l'Europe, puis en 1972 du Conseil des ministres de l'Union européenne. Comme l'hymne ne pouvait évidemment recevoir des paroles allemandes et être aussi long que dans l'œuvre originale, on demanda à Herbert von Karajan de l'adapter. La version officielle est donc celle qu'il donna en 1972 à la tête du Philharmonique de Berlin. La durée de l'hymne est donc précisément de 2 minutes 15 secondes, reprenant une quarantaine de mesures du quatrième mouvement avec un tempo fortement ralenti et une orchestration, hélas, simplifiée. Pour vous la faire retrouver en version originale et suivant une préconisation d'une tribune des critiques tenue sur France Musique, j'ai choisi Osmo Wanska à la tête de l'orchestre et des chœurs du Minnesota.
Et on ne s'en lasse pas. Merci beaucoup, Rosine Bachelot. On vous retrouve sur francemusique.fr, en podcast, bien sûr. Et puis samedi prochain.
À la semaine prochaine, Saskia.
Il me reste une poignée de secondes pour remercier évidemment l'équipe qui était avec moi ce matin ou à la préparation de cette émission ici à la Folle Journée de Nantes. Marie-Ferdinand, Marion Guimet, David Travailleur, Fabien Gosset, Stéphane Poitvin, Antoine Giraud, Nicolas Estorge. Et puis merci aussi à nos auditeurs présents en studio ce matin qui se sont levés. Et puis à suivre bien sûr dans un instant. France Musique est à vous, Gabriel Oliver Aguillon.
À réécouter sur francemusique.fr.